France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Apprendre une langue étrangère grâce à votre smartphone, c'est un gros marché sur lequel Google se lance après d'autres. Explication dans un instant. Le 1er mai, seul jour férié et chômé de notre calendrier. Alors ces commerces aujourd'hui, ouverts ou fermés?
Je pensais qu'il y avait les commerces d'alimentation étaient ouverts. Là, je vois bien qu'il y a un café qui est ouvert. La boulangerie aussi est fermée, donc ouais, je comprends pas très bien.
Dur à suivre en effet, reportage dans un instant et puis à partir de 13h30. Faut-il autoriser l'ouverture des commerces en ce 1er mai? Que dit exactement la loi? On en parle avec nos invités et avec vous, 01 45 24 7000. Pour vos questions et témoignages, que vous soyez commerçant ou consommateur. Le 1er mai côté manif également, nous serons à Dunkerque avec les ArcelorMittal et à Marseille avec des retraités. À suivre encore, cet accord économique conclu la nuit dernière entre États-Unis et Ukraine. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
En direct de Moscou, Sylvain, c'est un revers pour la Russie.
Oui, en tout cas, du côté de Moscou, on apprécie assez peu ce rapprochement entre Kiev et Washington. Et la télévision gouvernementale, ce matin, essaye absolument d'en minimiser la portée.
A tout de suite pour vos précisions. Nous parlerons aussi de ces usagers du train du Morvan qui veulent sauver leur ligne en courant, de cette nageuse devenue influenceuse des piscines et de l'espagnol Lamine Yamal, 17 ans, joueur du FC Barcelone, magicien du foot, nouveau récital hier soir. 13h50, c'est la France et les recettes de 1er mai de Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le batteur de jazz André Ceccarelli et le jazz et la java, Claude Nougaro. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Communiquer avec des étrangers n'a jamais été aussi simple. Internet regorge d'outils de traduction en direct jusqu'aux lunettes Ray-Ban de Meta qui font la traduction. Mais ce n'est évidemment pas la même chose que d'apprendre une langue. Et visiblement, il y a un marché. Alors il est dominé pour l'instant par des applications comme Duolingo ou Babbel, très prisées des élèves. Mais voilà que débarque le géant Google. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Avec un outil baptisé Little Language Lessons. Alors, vous l'avez testé, comment fonctionne-t-il?
Vous avez trois possibilités, Jérôme. Des leçons de vocabulaire, d'abord, sur des situations simples. Demander le chemin de la gare.
هل هذه هي الطريق الصحيحة إلى محطة القطار?
Là, en arabe. Ou bien en portugais.
Desculpe, pode ajudar-me? Onde fica a estação de comboios?
Puis des conversations à suivre avec des expressions courantes.
Disculpe, ando buscando un libro sobre la guerra de sucesión española.
Ici, une étudiante qui demande à un libraire un ouvrage sur la guerre de succession en Espagne.
Algún autor en particular?
Dernière possibilité, on prend une photo et l'outil détecte les objets présents dessus. J'ai testé avec mon bureau.
Desk.
Mouse.
Keyboard.
Le clavier, la souris. Bref, c'est très facile d'utilisation, même si ça reste quand même un peu limité. On est loin de l'interface ludique de Duolingo, par exemple, et la voix est un peu robotique. On va pas y passer des heures. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est que Google utilise en effet son intelligence artificielle pour générer ses contenus. On peut choisir parmi une quinzaine de langues et ensuite demander n'importe quelle situation, n'importe quel thème. C'est l'IA qui brode dessus.
Ça veut dire que malgré les outils de traduction qui existent, il y a toujours un appétit, Xavier, pour apprendre les langues?
Et pourtant, il y en a en face de plus en plus d'applications concrètes, vous l'avez dit, de traductions simultanées. Pour l'instant, donc, les utilisateurs ne boutent pas ces applications. C'est le pari que fait Google en s'invitant sur ce marché dominé, on le disait notamment par Duolingo, plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde, qui a d'ailleurs annoncé avant-hier qu'elle utiliserait désormais, elle aussi, de l'IA plutôt que des sous-traitants pour créer des exercices personnalisés.
La bataille des langues vue par Xavier Demani. Avant de donner la parole à ceux qui marchent en ce 1er mai, les manifestants, intéressons-nous à ceux qui courent. Et pour la bonne cause, la défense des petites lignes de train, on en parle beaucoup en ce moment dans le Jura ou dans la Creuse par exemple. Là ça se passe dans le Morvan avec ce trail organisé depuis ce matin au départ de Corbigny dans la Nièvre, direction la gare de Paris-Bercy. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour à tous.
Une course à pied pour défendre le train du Morvan.
Oui, une course de 376 km tout de même et courir en relais jour et nuit jusqu'à samedi avec des participants de 8 à 70 ans. Eh bien, c'est une idée de l'association de course à pied Trail Évasion Corbigny. et c'était une évidence pour Geoffrey Odile.
Il y a beaucoup d'habitants qui prennent le train pour avoir des consultations vers les spécialistes à Paris. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent à Paris qui prennent ce train. Là, à l'heure actuelle, il y a énormément de pannes, énormément de retards. Les horaires ne sont pas forcément adaptés. On se plaint que ce train, entre guillemets, ne gagne pas d'argent. Mais derrière, si on ne met pas tous les éléments pour essayer qu'il en gagne, c'est important de le rendre visible, ce train, avec des horaires adaptés.
Et la demande numéro 1, c'est le financement des travaux pour pallier la vétusté des voies. Sur certaines portions, les trains ne peuvent circuler qu'à 40 km/h. Les correspondances, les temps de parcours excessifs, les horaires, tout cela décourage l'usage du ferroviaire, dénonce Sandrine Saul, cofondatrice du collectif Ligne à défendre Bourgogne-Nord.
On a besoin d'une stratégie en fait sur le ferroviaire en France. En fait, le ferroviaire, c'est compliqué, il y a des acteurs différents, donc tout le monde a tendance à se renvoyer la balle. Vous voyez, on parle à la région, puisque c'est la région qui doit assurer un service de transport, et la région dit bah, « oui, mais c'est l'État qui doit financer ». Voilà, SNCF Voyageurs dit « ah bah non, c'est pas à nous, il faut voir avec la région ».
La région Bourgogne qui a récemment estimé que pour restaurer l'ensemble des petites lignes de train, il faudrait investir entre 400 et 500 millions d'euros d'ici 2032.
Merci Sarah Mansoura. Il y a donc ceux qui courent aujourd'hui sous le soleil, et puis il y a ceux qui travaillent, même s'ils sont peu nombreux en ce jour férié et chômé, sont autorisés à ouvrir, nous dit le Code du travail, les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Donc, a priori, pas les commerces. Pourtant, de nombreuses chaînes de restauration rapide sont ouvertes aujourd'hui, quand certaines boulangeries, elles, ont été verbalisées l'an dernier pour avoir travaillé. Bref, difficile de s'y retrouver, par exemple dans cette rue du 15e arrondissement de Paris où s'est rendue ce matin Cécile Bideau, la bien nommée rue du commerce.
Il y a ce primeur qui est ouvert, on va rentrer.
En espèce madame ou en espèce bourgogne ?
Moi, c'est Belkacem.
Vous êtes le patron ?
Non, patron tout seul, il ne peut pas tout... Bonjour monsieur, il ne peut pas tout assumer. Donc on est là pour volontaire, il faut que les gens se nourrissent.
Alors ensuite, la fromagerie en face est fermée, l'opticien à côté est fermé. Donc là, je vais compter rapidement 7 commerces sur cette portion de trottoir et un seul ouvert. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous cherchez un peu des commerces ouverts ?
Ben oui, je cherchais la boucherie, parce qu'elle était indiquée ouverte sur Internet. Enfin, moi, je ne suis pas à la fête du travail, c'est pour travailler, non ? On est au 21e siècle, hein. On n'est plus au 19e.
Hein. Donc là, vous sortez de la pharmacie ?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez que, ben, y a des règles très strictes ? C'est la seule journée de l'année où les règles sont si strictes ?
C'est important, oui. Que tout le monde puisse se reposer et que ça fasse une sorte de moment national... Même si, effectivement, on est content d'avoir les pharmacies ouvertes. C'est tout le paradoxe.
Alors, je vais traverser la rue et je vois qu'il y a le café qui est ouvert. Service continu, c'est écrit.
C'est la restauration. On est là pour accueillir tout le monde. Donc, le 1er mai, j'ai toujours travaillé.
Vous avez combien de salariés qui travaillent aujourd'hui ? Vous êtes nombreux.
Aujourd'hui, on sera une dizaine.
Ils sont tous payés double ?
Non.
Vous craignez pas les contrôles ?
Non, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça.
Cécile Bideau pour ce reportage. Le gouvernement lui est favorable à un assouplissement de la loi. On y revient avec nos invités à partir de 13h30 et avec vous 01 45 24 7000 pour vos questions. Alors cette journée internationale des travailleurs intervient dans un contexte particulier, ralentissement de la croissance mondiale et crainte pour l'emploi. Nous serons à Dunkerque dans un instant. Avant cela, Marseille, manifestation ce matin avec parmi les mots d'ordre des manifestants, l'abrogation de la réforme des retraites, Mathilde Vinceneuf.
Un cortège dans une ambiance plutôt festive où l'on distribue des brins de muguet sur les pancartes. Pas de revendication unanime, mais la réforme des retraites revient souvent dans la bouche des manifestants. Naïma est enseignante à la retraite avec son mari Marc. Ils étaient dans tous les cortèges contre cette réforme qu'ils disent scandaleuse. 64 ans pour tout le monde, c'est trop, dit Naïma.
Je pense que moi, j'aurais pu travailler jusqu'à 64 ans. Mais je pense pas toujours à moi, en fait. Moi, je pense au monde qui m'entoure, aux ouvriers, aux gens qui travaillent dans les usines, même aux gens qui sont dans des bureaux mais qui ont des charges mentales.
Bon, on aimerait, par exemple, que ma fille, qui a 23 ans, elle puisse partir dans de bonnes conditions, avec pas partir à 70 ans, mais partir... moi, je pense que 62, c'est bien, quoi.
Pour Marc, même si la concertation sur les retraites est toujours en cours, inutile d'espérer, il n'en attend plus rien.
C'est pas une vraie concertation. Beaucoup de syndicats ont quitté la table. La meilleure solution, c'est par le vote de changer de gouvernement et de changer échangé à l'Assemblée nationale.
Dans le cortège, beaucoup dénoncent les efforts demandés pour réduire le déficit de la France, les coupes budgétaires. Il faut arrêter de trop en demander aux travailleurs, conclut une autre manifestante.
Mathilde Vinceneux, correspondante d'Inter à Marseille, cortège aussi ce matin à Lille, Bordeaux ou encore Strasbourg. 260 au total aujourd'hui dans le pays. À Paris, la manifestation partira tout à l'heure à 14h à l'appel de la CGT, de Force Ouvrière ou encore de la FSU avec ce mot d'ordre, je cite, « contre l'extrême droite, pour la paix, les libertés et la justice sociale ». Mais le premier syndicat de France, la CFDT, n'en sera pas. Il a préféré un rassemblement ce matin dans Paris. Sa secrétaire générale, Marie-Lise Léon, s'en explique.
Alors on est en ordre dispersé avec l'idée que chacun est sur le mot d'ordre qu'il souhaite. Et nous ne sommes pas une seule organisation syndicale. Il y a eu un 1er mai 2023 extrêmement uni et extrêmement fort en termes de mobilisation. 2024, moi j'ai été dans une autre ville sur les questions européennes et le sujet n'est pas nouveau en fait. Le sujet n'est pas nouveau. On a, lorsque c'est possible et lorsque l'on a véritablement des sujets en commun, on est capable de faire ensemble. Et le 1er mai, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous ensemble, mais il y a des sujets sur lesquels on reste groupés et on continue de porter des choses en commun.
La secrétaire générale de la CFDT au micro de Maxime Debs. Un peu plus de 2000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés à Paris cet après-midi pour sécuriser le cortège. Symbole des difficultés économiques du moment, la situation du sidérurgiste ArcelorMittal. Il a annoncé la semaine dernière la suppression de 600 postes en France en raison notamment de la concurrence asiatique. Site le plus touché, Dunkerque, avec 290 postes concernés et un investissement de près de 2 milliards pour décarboner les hauts fourneaux qui est gelé. Alors ce matin, de nombreux leaders de gauche s'étaient donné rendez-vous sur le site aux côtés de centaines de salariés qui n'ont qu'un mot sur la bouche, Jeanne de Butler, nationalisation.
Oui, on a rarement vu autant de monde à Dunkerque pour un 1er mai. Beaucoup de salariés qui manifestaient pour la première fois. Ils ont enfilé les bleus de travail, les casques d'ouvriers, des familles aussi. On dit qu'ici, une famille sur cinq dépend d'ArcelorMittal et tous se demandent si leur emploi ne fait pas partie de la liste. La solution, c'est nationaliser Mittal. On peut faire du métal sans Mittal. Entrer au capital, l'Angleterre l'a fait. Les salariés sont en colère. Ils en ont marre d'entendre de belles paroles, des politiques qui sont là pour la photo. On a vu Olivier Faure, Marine Tondelier, des élus locaux, LFI, François Ruffin, le sénateur Patrick Kanner, enfin bref, beaucoup de monde. Mais ce que les salariés demandent, c'est des actes. La CGT prévoit déjà de monter à Paris en bus le 13 mai, jour de la prochaine réunion CSE. Et il lance un appel sans réponse politique dans les deux mois qui viennent. Il menace de bloquer le passage du Tour de France, ici le 7 juillet, entre Valenciennes et Dunkerque.
Jeanne de Butler, les emplois qui disparaissent font du bruit, ceux qui se créent un peu moins. Mais il y en a, et pas très loin de Dunkerque, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. L'entreprise Durisotti, située près de Lens, était au bord de la liquidation il y a quelques mois. Elle a été rachetée et son nouveau propriétaire, le groupe nordiste GTE Automotive, annonce la création de 1500 postes en 3 ans. Son activité, Vanessa Lamar, transformer des véhicules thermiques en électriques.
C'est la grande spécialité de GTE Automotive. Avec ses 9 filiales en France, elle aide les entreprises à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. Et Salomine va devenir le centre névralgique de cette activité avec la création sur place du Centre européen de la mobilité décarbonée. Marie Desprez, directrice générale de GTE Automotive.
Notre ambition, c'est d'être les numéro 1 sur la décarbonation de la mobilité professionnelle. On offre des conseils, on offre de l'infrastructure, on offre de l'ingénierie. On travaille aussi avec des partenaires. Il y en a qui font mieux que nous certains métiers. Donc on a toute une sphère et c'est l'objectif du CEMD, le Centre européen de la mobilité décarbonée, c'est de créer cet écosystème avec les institutionnels, les centres de recherche et les entreprises avec qui on travaille pour offrir tous les services et les produits liés à la décarbonation de la mobilité professionnelle.
Les salariés de Durisotti vont être formés au rétrofit qui consiste à remplacer des moteurs thermiques par des moteurs électriques, à la fabrication et à l'installation de batteries électriques. Ils sont partagés sur l'avenir du site. Les uns optimistes, les autres craintifs, ils n'ont pas souhaité s'exprimer au micro d'ici Nord. Beaucoup sont encore refroidis par la gestion du précédent repreneur en 2019, le Britannique Liberty. Il avait laissé des dettes et n'avait pas investi dans l'outil de travail et la sécurité des salariés.
Dossier à Dunkerque, mais aussi près de Lens, signé de nos confrères d'ici Nord. Ce qui nous amène en Allemagne. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous y êtes notre correspondant où les résultats des constructeurs automobile pour le premier trimestre reste très mauvais.
Ah oui, un premier trimestre effectivement compliqué après une année 2024 déjà morose pour Volkswagen, le premier constructeur européen, baisse de 40% du bénéfice net, un recul de la rentabilité qui pourrait entraîner la suppression de 35 000 emplois en Allemagne, soit un poste sur cinq, et aussi l'arrêt de la production dans deux usines. Chez Mercedes, même dégringolade, moins 43% de bénéfice au premier trimestre, alors que la direction misait sur une marge de 6 à 8% cette année. En cause, encore et toujours, la flambée des coûts de l'énergie depuis la guerre en Ukraine, la concurrence chinoise toujours plus forte, et puis surtout la baisse mondiale des ventes. Moins 42% par exemple en Chine pour Porsche, l'une des marques de Volkswagen. Les tensions commerciales avec les États-Unis aggravent encore la situation. La direction de Mercedes redoute, je cite, des conséquences significatives si Donald Trump maintient les droits de douane à 25%. Du côté de Volkswagen, qui exporte les trois quarts de ses modèles vendus sur le marché américain, on cherche des solutions pour atténuer l'impact des surtaxes. Parmi les pistes envisagées, la délocalisation d'une partie de la production aux États-Unis.
Sébastien Baer en direct de Berlin. En France, les immatriculations de voitures neuves ont diminué en avril de 5,6% par rapport à l'an dernier, moins 12% pour Stellantis, c'est-à-dire Peugeot Citroën, et moins 59%, c'est un effondrement, pour les ventes de voitures neuves de la marque Tesla. Tesla, dont le journal américain Wall Street Journal croit savoir que les dirigeants réfléchissent à remplacer Elon Musk au poste de directeur général, démenti ce matin de la présidente du groupe. Restons aux États-Unis avec cet accord annoncé la nuit dernière après des semaines de négociations entre Américains et Ukrainiens. Accord économique signé entre les deux pays. Bonjour Frédéric Seitz.
Bonjour.
Alors on a beaucoup parlé des terres rares ces dernières semaines. Est-ce qu'on sait ce que contient cet accord ?
Alors cet accord crée un fonds d'investissement qui sera dirigé à parité par les Ukrainiens et par les Américains. Ce fonds va financer des projets d'extraction de minerais critiques, comme le graphite, utile pour la production de batteries électriques, mais aussi du pétrole et du gaz. Le gouvernement ukrainien assure qu'il garde la propriété de ses sous-sols et qu'il garde la main pour déterminer où et quoi extraire. Je cite la ministre de l'économie, Yulia Sviridenko, qui s'est rendue à Washington pour signer cet accord. Il doit d'ailleurs encore être ratifié par les députés ukrainiens. Alors que deviendront les bénéfices générés par ces nouvelles mines et ces nouveaux puits ? Là, c'est un peu moins clair. Ces bénéfices seront réinvestis dans la reconstruction de l'Ukraine, affirme le premier ministre ukrainien. Sous-entendu, l'argent n'ira pas dans la poche d'actionnaires, mais sa propre ministre de l'économie est plus nuancée. Elle évoque cette obligation de réinvestir pour seulement 10 ans. Elle ajoute même que tout cela doit encore être discuté. Côté américain, pas de précision supplémentaire. L'accord n'a d'ailleurs pas été publié intégralement.
Il reste tout de même beaucoup de questions.
Oui, quelle quantité réelle de ces minerais dans les sous-sols ukrainiens ? Les cartes actuelles datent de l'époque soviétique. Par ailleurs, une partie des ressources se trouve en zone de guerre. Bref, ce n'est pas forcément la corne d'abondance décrite par Donald Trump qui parlait de 500 milliards de dollars. Autre interrogation, quelle protection américaine pour Kiev en échange de cet accord économique. Le texte ne mentionne pas de garantie de sécurité, pourtant réclamée par les Ukrainiens. Alors ils devront se contenter de simples déclarations. Cet accord est une bonne chose pour eux, assure Donald Trump, parce qu'il y aura une présence américaine en Ukraine.
Ce rapprochement entre les États-Unis et l'Ukraine, c'est un mauvais point pour la Russie qui a suivi ces négociations de près. Sylvain Tronchet, on vous retrouve en direct de Moscou. Sylvain, y a-t-il des commentaires ce matin ? Au contraire, la volonté de passer tout cela sous silence ?
Alors, 1er mai oblige, hein, et c'est une grande tradition ici, pas de position officielle du Kremlin pour l'instant, mais de ce qui émerge des médias, des quelques réactions politiques, évidemment, on ne saute pas de joie côté russe. Hein, la première chaîne de télévision parle de cet accord tout en essayant absolument d'en minimiser la portée. C'est un accord flou, on ne comprend pas ce que vont gagner les Américains. Sur une autre chaîne, on souligne que Kiev a bien tenté d'obtenir des garanties de sécurité, mais ne les a pas eues. Et malgré les fanfares et les trompettes, si les combats se poursuivent en Ukraine, cet accord ne vaut rien, dit un autre journaliste, un éditorialiste parle lui d'escroquerie politique. Mais bon, malgré tout, le ton du communiqué de Washington, qui parle de messages envoyés à la Russie, qui parle d'invasion à grande échelle de l'Ukraine, n'a pas échappé à grand monde ici. L'ancien président Dmitri Medvedev dédouane Donald Trump, on le ménage toujours, il estime que l'état profond américain est en train de lui faire la guerre, il note bien, comme tous les commentateur ici, que les USA pourraient prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, et il conclut, le mois de mai commence dans la tourmente et certainement pas dans la paix.
Sylvain Tronchet à Moscou pour Inter. Ce matin, une frappe de drones ukrainiens a fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés dans une ville sous contrôle russe de la région de Kherson au sud de l'Ukraine, notamment des civils qui étaient présents sur un marché, c'est ce que disent les autorités nommées par Moscou. Tandis qu'en Syrie, la communauté druze, une minorité religieuse, continue d'être ciblée par les groupes armés liés au nouveau pouvoir islamiste. Au moins 15 combattants druzes ont été tués ce matin dans une embuscade près de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La France réagit et appelle les acteurs syriens et régionaux à l'arrêt des violences confessionnelles.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
L'enquête se poursuit 6 jours après le meurtre d'Aboubacar Cissé dans la mosquée de la Grand Combe, au nord d'Alès, dans le Gard. Son meurtrier présumé, arrêté en Italie, accepte d'être remis à la France. À ce stade, c'est le pôle criminel de Nîmes qui enquête. Mais la famille du jeune Malien souhaite que le caractère terroriste de ce crime soit reconnu et elle appelait un rassemblement aujourd'hui à Paris, place de la République. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes sur place, vous venez de rencontrer la famille d'Aboubacar Cissé.
Oui, devant la foule assez dense sur Oro, Cissé se tient droit. Il se dit soulagé de voir autant de soutien ici comme partout en France après ce qui est arrivé à son frère Aboubacar.
Ça nous apaise un petit peu quand même. C'est difficile d'avoir perdre un frère, surtout un frère qui était l'exemple de la famille.
Mais il est aussi en colère, tout comme Mariam, la tante de la victime, en colère contre le système judiciaire qui ne reconnaît pas encore cet acte comme terroriste, dit-elle.
La manière comment il a été tué, on n'est pas d'accord avec ça. Donc il faut que la justice fasse son travail. Là est fait, mais je ne trouve pas vraiment bien quoi.
Vous aimeriez que ce soit reconnu comme un acte terroriste ?
Oui.
Pour la communauté malienne de France, il y a une inégalité de traitement intolérable, assure Ali Doucouré, secrétaire général du Conseil supérieur de la diaspora du Mali en France.
On a déjà vécu ce genre de situation en France, malheureusement, d'actes terroristes. Et on n'a pas attendu d'observation, on n'a pas attendu plusieurs heures pour pouvoir le mettre en œuvre. Et donc du coup, pourquoi quand il s'agit d'un Malien, il faut de l'observation, il faut 48 heures.
Ali Doucouré dénonce aussi le deux poids deux mesures qu'il constate parmi la classe politique.
Erwan Chassin en direct de la place de la République à Paris avec les moyens techniques de Florent Bujon. C'est un procès qui était très attendu hier après-midi à Châteauroux. 6 hommes poursuivis pour des chasses illégales en pleine nuit, soupçonnés d'avoir parfois écrasé des animaux sauvages avec leur véhicule. Eh bien, il s'est transformé en fiasco puisque le tribunal a prononcé la nullité de toute la procédure. Les pièges photographiques au cœur de l'enquête avaient été installés et utilisés sans l'autorisation du procureur de la République. À Toulouse, s'est éteinte une figure de la lutte pour la mémoire des déportés. Marie Veslik, rescapée de la Shoah, est morte aujourd'hui à l'âge de 94 ans, nous apprend son fils Claude. Elle avait été arrêtée en juillet 44 par un milicien dans une rue de Toulouse. Elle n'avait que 14 ans. Elle avait ensuite été déportée au camp de Ravensbrück. Elle avait publié l'an dernier « Il n'y aura bientôt plus personne », un livre pour dire que ce pan de l'histoire, pour qu'il ne devienne pas ce pan de l'histoire aussi abstrait et lointain que la guerre de 100 ans. Fin de citation. Je reviens un instant à l'actualité du jour, au sort des salariés, des discriminations contre lesquelles ils doivent parfois lutter. Ainsi, les malades de diabète se voient encore refuser l'accès à certaines professions. Sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes ou encore certains métiers de la SNCF. Une injustice, selon eux, contre laquelle des milliers de patients luttent chaque année, Victor Dolande.
Amélie est diabétique de type 1. Il y a 2 ans, elle passe des entretiens à la SNCF pour devenir aiguilleuse du rail. 4 rendez-vous qui se déroulent très bien. Le dernier, une visite médicale, normalement une simple formalité.
Quand j'ai été en entretien avec le médecin, elle m'a dit qu'il ne faut pas dépasser 5 points pour être validée à la visite médicale. Et le diabète de type 1 vaut 5 points.
Déclarée inapte pour ce travail, Amélie ne sera jamais embauchée à la SNCF. Et pourtant, elle est équipée d'une pompe à insuline qui régule sa glycémie.
C'est quelque chose d'insupportable à entendre. Aujourd'hui, avec l'évolution qu'il y a dans la médecine, on devrait avoir accès à tout type de métier.
Une situation totalement illégale selon Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques.
La loi de décembre 2021 exclut toute discrimination d'office à l'emploi de personnes atteintes de maladie. Cette loi n'est pas respectée dans la mesure où pour un certain nombre de médecins, l'inaptitude va être prononcée de fait sans étudier la situation particulière des patients.
Dans l'attente d'une amélioration du code du travail, ces malades recalés à l'emploi peuvent contester leur inaptitude devant un tribunal administratif et la plupart du temps, ils gagnent.
Explication Victor Delande. C'est bon pour la santé. La natation en piscine, par exemple. Certaines piscines sont ouvertes aujourd'hui en ce 1er mai. Des piscines qui ont désormais leur influenceuse. Clara, c'est son prénom. Jeune éditrice qui chronique depuis 4 ans son obsession pour l'eau chlorée sur son compte Instagram baptisé La Nageuse Parisienne, au point d'avoir testé la totalité des 41 bassins de la capitale et d'autres un peu partout en France. Camille Marigot l'a rencontré.
Le rendez-vous est donné à 7h40 du matin devant la piscine Alfred Nakache dans l'est de Paris.
C'est pour moi comme la maison. Tu vois le bassin de la rue. Quand tu es dans le bassin, tu vois aussi la rue. Ça a été pensé comme ça par l'architecte Patrick Berger.
Avant d'aller dans l'eau, Clara suit toujours le même rituel qu'elle décortique pour ses abonnés jusqu'à la bonnétologie. Où et quand mettre son bonnet?
Est-ce qu'on l'enfile dans les vestiaires, dans les douches ou au bord du bassin?
Sur Instagram, pas de selfie. Clara troque son visage contre une tête de grenouille et décrit archive à l'appui chacune des piscines où elle a nagé.
Des détails de mosaïques, des photos de piscines dans les années 80. C'est une émotion folle en fait quand tu tiens entre tes doigts le permis de construire des années 1930 qui raconte les impératifs à l'époque, faire des douches également pour les femmes.
Une quête sans fin qui l'emmène aussi hors de la capitale.
Un coup de cœur pour moi c'est la piscine Jambron à Grenoble. Elle a des couleurs, une lumière hors du commun.
À peine sèche, Clara file direction la mairie de Paris pour témoigner du voyeurisme dont elle a aussi été victime dans un vestiaire de la ville comme plusieurs des nageuses qui la suivent sur Instagram.
Les femmes m'ont écrit pour me raconter que ça leur était arrivé. Plusieurs m'ont dit qu'elles ne vont plus à la piscine et je trouve ça tragique.
Alors Clara leur conseille, en toute subjectivité, les rares piscines où vestiaires hommes et femmes sont encore séparés.
Les fans de football, eux, ne se sont toujours pas remis du match dantesque d'hier soir. 3-3, score final entre le FC Barcelone et l'Inter Milan, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Match fou avec une performance majuscule d'un joueur qui n'a ni le droit de conduire, ni le droit de voter en Espagne, puisqu'il n'a que 17 ans. C'est le catalan Lamine Yamal. Il a estomaqué le public hier soir, Nicolas Perronet.
Il a encore des bagues aux dents et hier soir, c'est avec les cheveux teints en blond qu'il a époustouflé le monde entier. Le spectacle débute alors que le Barça est mené 2-0. Le phénomène décide alors de porter son équipe sur ses épaules. La suite est du même acabit, un récital qui impressionne jusqu'aux adversaires, comme l'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi.
Yamal nous a créé beaucoup de problèmes. C'est un talent qui naît tous les 50 ans, un talent que je n'avais jamais vu en personne auparavant. Ce soir, je l'ai vu en vrai. Et oui, il nous a posé beaucoup de problèmes.
De quoi relancer le débat. Est-il aujourd'hui, à 17 ans et 292 jours, le meilleur joueur du monde? Aucun doute pour le défenseur milanais Alessandro Bastoni.
C'est la vérité. Quand on est fortissimo, c'est la reconnaissance.
Quand un joueur est fort, il faut le dire.
On ne peut faire autre que faire des compliments à l'ami.
On ne peut que faire des compliments.
Et il n'y a finalement que l'attaquant français de l'Inter, Marcus Thuram, pour apporter un petit bémol.
Le meilleur joueur du monde, non, je pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. Peut-être le troisième. Ousmane et Kylian.
Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal. Les deux derniers, en tout cas, sont aujourd'hui les grands favoris pour le prochain Ballon d'Or.
Match retour Inter Milan FC Barcelone programmé mardi prochain. Le classement des villes les plus ensoleillées de France au mois d'avril. À quelques minutes de vous donner la météo de ce 1er mai. Plutôt surprenant, c'est le Touquet qui était la ville de France la plus ensoleillée en avril devant Le Havre, Calais, Saint-Quentin, Rouen et Nice. Distancés 70 heures de soleil dans le mois en moins à Nice par rapport au Touquet, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo donc d'Élodie Calac. Puis à 13h30, venez nous dire ce que vous pensez de l'ouverture des commerces. Aujourd'hui, certains sont ouverts en ce 1er mai. Faut-il l'autoriser? Faut-il l'interdire? Et pour tout le monde, restaurant y compris, 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, c'est notre feuilleton. Les élèves de CM2 préparent le concours France Inter de création de podcasts. Nous sommes toujours en Haute-Vienne et aujourd'hui, ils enregistrent. 13h50, c'est la France et c'est une chanson Marie-Luce Ribaud et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Marie-Luce, on lève le pied en ce 1er mai.
Oui, c'est pour cela, Jérôme, que je suis allée puiser quelques recettes faciles mais délicieuses glanées au fil des chroniques. Travailler, c'est trop dur, mais se régaler, c'est le credo.
Je suis assez d'accord. Et avec vous, Frédéric, un musicien.
Oui, on va se régaler avec un batteur de jazz, André Ceccarelli. Il a commencé comme batteur du groupe Les Chats Sauvages de Dick Rivers. Ah, oui. Depuis, il a accompagné de très nombreux artistes, notamment Claude Nougaro. Et c'est lui que nous écouterons avec la chanson Le Jazz et la Java.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, partenaire de L'Amomali Totem. Le nouvel album de M, Fatoumata Diawara, Toumani et Bala Diabaté.
Je suis Mali. Je suis Mali.
Je vous emmène en voyage au Mali à la découverte de Totem, le nouvel album de L'Amomali.
Totem de L'Amomali. Un album France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée ensoleillée.
Oui, alors du sud-ouest à la Bretagne, le soleil est parfois quand même contrarié par des nuages d'altitude. Quelques ondées sont possibles au sud de la Garonne, parfois un orage. Ce risque d'ondées orageuses progressera vers les Charentes et la Bretagne en soirée. Et puis ailleurs, beaucoup de soleil, peut-être quelques nuages élevés au nord de la Seine, mais sans conséquence. Une averse possible sur le sud du Jura, sur la montagne Corse. On a toujours du vent d'autan, jusqu'à 70 km à l'heure de l'eau d'Omidi Toulousain. Les températures sont estivales, alors 23 degrés à Brest, à Nice, 25 à Angers et Biarritz, 27 au Havre, à Bourges, à Besançon ou à Valence. Il fera 28 degrés à Strasbourg, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montauban, 29 à Lille, 30 degrés attendus à Paris. Il fait déjà presque 28 degrés en ce moment. Demain, il fera encore chaud avec du soleil, un risque d'orage du sud-ouest à la Bretagne. Et puis ça va changer ce week-end avec une dégradation orageuse et des températures en baisse. Donc si vous aimez soleil et chaleur, profitez-en.
Voilà, c'est aujourd'hui et demain. Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Est-ce le signe d'une société qui fait du travail une valeur absolue ? Ou au contraire, s'agit-il du triomphe de la consommation qui ne connaît aucune limite, pas même celle des jours fériés ? Toujours est-il que cette année, la pression est forte pour autoriser l'ouverture des commerces en ce jour férié et chômé depuis 1948. En France, ce 1er mai, qui est, rappelons-le, la journée internationale des travailleurs, ce sont les fleuristes et les boulangers qui demandent qu'on les laisse ouvrir en paix. Ce sont deux sénateurs centristes qui, avec le soutien du gouvernement, ont déposé une proposition de loi pour donner ce droit d'ouvrir à tous les commerces de détail, stations-service, casinos, pharmacies ou encore magasins de bricolage, car c'est bien connu, on bricole le 1er mai. Alors nous allons examiner les arguments des uns et des autres. Nous allons surtout regarder ce que dit exactement la loi et le code du travail, car on est un petit peu perdu. Tout cela avec nos invités. Pierre Bosch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. Quel commerce tenez-vous, Pierre Bosch ?
Je suis antiquaire.
Est-ce que vous êtes ouvert ?
Non.
Bon, vous avez choisi de rester fermé ou vous y êtes contraint. On verra ça dans les minutes qui viennent. David Guiluet avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat d'entreprise en droit social. Vous consultez aujourd'hui ? Vous travaillez aujourd'hui ?
Pas vraiment.
Pas vraiment, au-delà de cette interview à France Inter. Avec nous également, Carole Priou, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire générale Force Ouvrière, la branche commerce à Paris. Inutile de vous demander si vous travaillez aujourd'hui. A priori,
bien sûr que non.
Vous étiez dans la rue, je crois, ce matin.
Oui, et je continue cet après-midi.
Votre syndicat, je le précise et je le rappelle, Force Ouvrière, 14h pour la manifestation pour vous. Oui. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application France Inter. C'est le numéro qu'a composé Marielle. Bonjour Marielle.
Bonjour.
Vous nous appelez de Meurthe-et-Moselle où vous travaillez, je crois, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ?
C'est ça. Donc, j'ai travaillé aujourd'hui pour aider ma sœur, qui est boulangère, la seule de sa ville, qui était ouverte aujourd'hui.
Où est-ce qu'elle est installée ?
Elle est installée à Dombasle, au Perlimpinpin.
D'accord. Donc, vous avez ce matin servi à la caisse avec elle ?
Voilà, c'est ça. Parce qu'elle, elle est boulangère et pâtissière, et elle était la seule à autoriser à travailler avec sa famille, puisque les salariés n'avaient pas le droit d'être là, sous peine de pénalité.
Donc vous lui donnez un coup de main, parce qu'elle ne peut pas avoir de salariés aujourd'hui.
C'est ça, et que pourtant, ils étaient tous volontaires pour être payés double.
Vous-même, vous avez une activité ?
Exactement, je suis monitrice d'auto-école à mon compte et c'est pour ça que je travaillerai cet après-midi parce que ceux qui veulent travailler, je trouve ça normal de les laisser travailler et que effectivement ceux qui ne veulent pas travailler puisque c'est un jour de fête de travail, ce que j'entends aussi, que certains commerces qui ne sont pas comme le McDo, je trouve ça horrible qu'ils soient ouverts parce qu'on peut bien se passer du McDo, mais une baguette bien fraîche un jour férié, je trouve que c'est quand même le patrimoine de la France et c'est incroyable qu'on soit obligé d'avoir recours à la famille plutôt qu'à ses propres salariés qui sont quand même plus doués qu'une monitrice d'auto-école.
Merci Marielle pour ce témoignage depuis la Meurthe-et-Moselle. Alors David Guiluet, Marielle nous dit le McDo est ouvert mais la boulangerie de ma sœur elle ne peut tourner qu'avec sa famille. Que dit le droit du travail ou la loi d'ailleurs, je ne sais pas à quoi il faut qu'on se conforme,
en fait,
qu'on se réfère.
C'est la loi qui prévoit un régime spécifique pour le 1er mai qui est différent du régime applicable notamment au dimanche, où il est interdit de faire travailler un salarié le 1er mai, sauf une typologie particulière d'établissements qui sont ceux pour lesquels ils sont dans l'obligation de poursuivre leur activité. C'est ceux qui ne sont pas censés pouvoir interrompre leur activité.
Un hôpital, par exemple.
Un hôpital, une maison de retraite, par extension, peut-être la presse aussi.
France Inter, aujourd'hui, en l'occurrence, le service public de l'audiovisuel, effectivement.
Par exemple. Mais c'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas de définition plus précise. Donc ensuite, c'est un petit peu du cas par cas, et en fonction aussi de l'opinion que peut avoir l'inspection du travail de la notion d'établissement. Donc c'est d'ailleurs, à mon sens, la raison pour laquelle le législateur a voulu intervenir pour clarifier la situation.
Qui aujourd'hui n'est pas clair, donc.
Aujourd'hui, c'est pas clair, parce que notamment, on se déchaîne un peu sur ces braves boulangers, à tort ou à raison, mais c'est vrai que quel établissement est dans l'impossibilité de poursuivre son activité ou pas, c'est vrai qu'il y a un débat. Les boulangers expliquaient qu'entre ceux qui servent les clients et ceux qui servent les EHPAD, il y aurait peut-être lieu de faire une différence entre les établissements. Donc c'est pour ça que le législateur voulait intervenir.
Ouais. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, des inspecteurs du travail pourraient rentrer dans un restaurant dans lequel il y aurait des salariés, une enseigne de restauration rapide comme le signalait Marielle, et verbaliser cet établissement s'il y a des salariés dedans. Il n'a pas de raison d'être ouvert aujourd'hui.
C'est toute la difficulté de la définition. On vous dit des établissements qui ne peuvent pas interrompre leur activité. C'est quoi Quand est-ce qu'on ne peut pas interrompre son activité ? Dans l'absolu, on peut systématiquement, sauf hôpitaux, interrompre son activité si on va jusqu'au bout de la définition. Donc oui, aujourd'hui, en ce qui concerne les HCR, qui sont les hôtels, cafés, restaurants, qui sont majoritairement ouverts aujourd'hui, potentiellement, et on pourrait considérer qu'ils sont en infraction.
Pierre Bosch, qu'est-ce que vous demandez, vous ? C'est que la règle soit la même pour tout le monde, ou bien au contraire, qu'on cesse d'interdire l'ouverture et qu'on dise à tout le monde, peut ouvrir, ce n'est plus chômé ?
Absolument. Je veux dire, c'est aujourd'hui, effectivement, on est un absurdi. On dit services essentiels, les restaurants, en fait, peuvent s'ouvrir, les cinémas sont ouverts, mais par contre, le fleuriste et le boulanger ne peuvent faire travailler ses employés. Donc aujourd'hui, on a une situation ubuesque où n'importe qui peut vendre du muguet parfaitement, à la sauvette, et par contre, le fleuriste, lui, n'a pas le droit de faire travailler ses employés volontaires, et donc est fermé. Voilà, et pareil pour le boulanger. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une sécurisation juridique, de manière à ce qu'on définisse clairement qui peut ouvrir et qui peut fermer. Nous demandons qu'effectivement, boulanger, fleuriste, par exemple, puissent être ouverts. C'est sur la base du volontariat. Seuls les
salariés. Donc tous ceux qui souhaitent ouvrir peuvent ouvrir. C'est ça votre demande, Pierre Bosch.
Absolument.
Que la loi soit modifiée dans ce sens, qu'on puisse faire travailler des salariés, que ce soit de sa famille ou pas.
Bien entendu, parce que c'est sur la base du volontariat et la paye est double. Voilà. Et chacun est libre d'accepter ou pas.
Carole Priou, est-ce qu'il faut modifier la loi ? J'imagine que pour vous, ça serait plutôt dans le sens qu'elle soit plus claire pour que ce jour soit véritablement chômé.
Oui, c'est ça. Déjà, quand on regarde la proposition de texte qui est faite, je ne trouve pas ça forcément plus clair, puisque ça serait faire un petit peu en fonction, entre autres, des besoins du public. Donc, qu'est-ce que le besoin du public ? Est-ce qu'effectivement, on a besoin que le McDo soit ouvert ? Est-ce qu'on a besoin qu'un fleuriste soit ouvert ? On parle d'une journée par an, hein, le jour férié, puisque je rappelle que dans le commerce, il y a la possibilité aussi pour beaucoup de salariés de travailler 6 jours sur 7. Il n'y a plus de repos dominical, il n'y a plus de samedi, contrairement à des personnes qui travailleraient du lundi au vendredi. Il y a déjà énormément de jours fériés qui sont travaillés, il ne reste plus que ce jour.
C'est la dernière journée,
c'est
finalement.
La dernière journée. Et donc il est aussi important de se dire que peut-être une journée par an, on pourrait aussi s'arrêter. Complètement.
Les salariés sont censés être payés double aujourd'hui, 1er mai. Ça, c'est la loi ?
Oui, c'est la loi. Effectivement, les salariés qui travaillent aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui s'inscrivent dans les autorisations, sont payés double, tout à fait.
Vous vérifiez ça, Carole Priou ? Est-ce que c'est quelque chose qui est respecté très largement ?
Non, c'est-à-dire qu'effectivement c'est la loi. Par contre sur le terrain, on constate effectivement que le payer double n'est pas du tout systématiquement fait. Dernièrement, quand on a eu les dérogations au repos dominical pendant les JO, il y avait effectivement des entreprises qui demandaient cette dérogation en stipulant clairement dans leurs documents qu'ils n'avaient pas l'intention, contrairement au décret qui était précisé, de rémunérer double. Ils avaient écrit clairement.
Quel est le recours quand on est salarié ?
Ah, le recours, c'est effectivement se rapprocher de représentants du personnel, de syndicats, et voir effectivement pouvoir essayer de réclamer au prud'homme éventuellement ces majorations qui leur sont dues.
Alors, si on édicte la liste des commerces qui ont le droit d'ouvrir et ceux qui n'ont pas le droit d'ouvrir, si la loi est modifiée, c'est d'ailleurs l'initiative des sénateurs centristes, il va évidemment y avoir débat auquel vous participez. Anne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Pont-Sainte-Marie, vous nous rappelez
de
où ça se trouve ?
Pont-Sainte-Marie, voilà. Et c'est mon anniversaire et je travaille.
Bon anniversaire, Anne. Dans quel département est-ce que vous vous trouvez ?
Pardon ?
Dans quel département est-ce que vous vous trouvez ?
Dans l'Aube.
Dans l'Aube ?
À côté de Troyes.
Vous travaillez dans un cinéma ?
Oui, dans un cinéma. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est très important que des lieux de culture, ceux qui le veulent, mais en tout cas puissent rester ouverts parce que on a des personnes qui sont seules par exemple et qui ont c'est l'occasion effectivement de pour elles de ne pas de garder un lien social en fait. Et c'est vrai qu'on est ouvert 7 jours sur 7 dans le cinéma. Alors nous on est vraiment j'ai toujours été payée double et on a toujours payé double, il y a une convention collective qui est très précise là-dessus et moi, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir le 1er mai. Après, c'est toujours un petit peu... Quand on a un beau temps comme ça, évidemment, on ne va pas avoir grand monde. Donc, c'est un peu plus tristouné. Mais quand il pleut inverse, ça permet aux personnes qui se retrouvent en famille aussi de pouvoir venir tous ensemble. Et voilà. Moi, je trouve ça très important, effectivement, de ne pas rompre ce lien social. Mmh. Et c'est vrai qu'on a aussi de toute façon, il y aura toujours des personnes qui continueront de travailler le 1er mai, ne serait-ce qu'au niveau de la santé ou voilà, on a mis un ami qui est décédé, donc effectivement il a besoin de soins autour de lui.
Bien sûr,
donc,
santé voilà. Et cinéma, des situations très différentes, mais on entend votre témoignage. Anne, Carole Priou, une réaction à Anne qui nous dit mais les cinémas c'est très important qu'ils soient ouverts en ce 1er mai, il ne faut pas les fermer.
Oui, alors, écoutez, pour rétablir du lien social, moi, je peux effectivement inviter les personnes à rejoindre nos marches, par exemple, qu'on a sur différentes villes, pour effectivement puisse échanger sur nos conditions. Je pense qu'il y a différents moyens de ne pas rompre le lien social, et ne pas rompre le lien social, c'est pas sur une journée, c'est toute l'année.
Cécile nous appelle de Rambouillet. Bonjour Cécile.
Ça y est, c'est moi.
Oui, c'est vous.
Bonjour.
Bonjour Cécile.
Bonjour.
Dans les Yvelines. Oui. Regret des 1er mai du passé ?
Eh bien écoutez, oui, moi je trouve que ça a perdu du sens. Quand j'étais petite, le 1er mai, tout était fermé. On le savait, on l'acceptait très bien, on prenait ses précautions, on achetait du pain la veille, on avait des provisions pour... voilà, et puis on allait se promener ou on profitait de la journée en famille. Même la radio n'émettait pas, ou peut-être à partir de 20h, il n'y avait pas de journaux et... On a survécu. Et en plus, du coup, on avait gardé le sens de ce respect des travailleurs pour lequel cette journée était importante.
Merci.
Et pour laquelle elle avait été créée. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec votre intervenante, Carole Priou, je crois, parce que si on perd ça, ben, on n'a plus rien, quoi.
Merci Cécile. Merci pour votre témoignage. Pierre Bosch, vous qui représentez la Fédération des commerçants, que dites-vous à Cécile ? Des moments en famille, des moments de balade, c'est important en ce jour férié.
C'est important tous les jours et rien n'empêche de faire une promenade en soirée. Je tiens à rappeler simplement qu'aujourd'hui
c'est moins simple.
Est en difficulté. Un jour d'ouverture de plus est important. La moitié des gérants non salariés se versent à la fin du mois une rémunération qui est inférieure au SMIC. Donc une journée d'ouverture de plus, c'est important pour eux. C'est même vital pour éviter la désertification commerciale. je tenais simplement à rappeler cette évidence. Et laissons les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Si les salariés sont prêts à travailler pour une paye double, laissons-les travailler. Pourquoi les empêcher? Pourquoi décider pour eux?
Est-ce qu'il faudrait faire une différence entre des commerces situés, par exemple, en zone rurale, où il y a moins de commerces, et des commerces situés en zone urbaine, où, après tout, on a davantage le choix et davantage de possibilités, Pierre Bosch?
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi opposer les grandes villes aux petites villes, aux territoires? Non, on fait une règle qui s'applique à tout le monde, et libéralisons, laissons faire.
David Guilluet, ça veut dire qu'il va falloir établir des listes métier par métier si on s'achemine dans cette direction.
En fait, c'est l'idée du législateur. L'idée du législateur, c'est d'avoir le même type de réglementation que pour le travail dominical. Et dans le cas du travail dominical, on renvoie à des listes d'activités qui sont définies par décret, dans le cadre duquel vous pouvez avoir des mises à jour régulières. Donc, pour le coup, c'est le pouvoir réglementaire qui va succéder au pouvoir législatif pour définir les commerces qui peuvent être ouverts le 1er mai.
Dernière question, elle est pour vous, Anne-Marie, bonjour. Allô, Anne-Marie, vous m'entendez?
Oui, voilà, j'étais allée éteindre ma radio.
Où est-ce que vous êtes?
À Le Lude, c'est dans la Sarthe, dans le Sud-Sarthe.
Vous avez 30 secondes.
Ok, merci.
Allez-y, je vous écoute, Anne-Marie.
Oui, donc, que fait-on des touristes si on oblige tous les restaurants à fermer? Nous sommes, soi-disant, la première destination touristique mondiale en France.
Merci, vous avez fait moins de 30 secondes, vous êtes ultra efficace, Anne-Marie. Carole Priou, les touristes qui viennent en France, ce début du pont du 1er mai, il y aura le pont du 8 mai derrière.
Oui, ils baladent avec nous.
Non, mais il faut qu'ils mangent, il faut les accueillir. Est-ce qu'on met tout un pays à l'arrêt? Est-ce qu'on peut toujours, quand il y a de tels enjeux économiques? C'est ce que rappelait Pierre Bosch à l'instant.
Il me semble qu'il y a beaucoup de pays qui, effectivement, ont aussi l'arrêt du 1er mai. Donc, il faudrait savoir aussi comment ça se déroule dans leur pays. Et j'imagine qu'ils comprennent très bien.
Donc, tant pis pour l'impact économique, si je puis dire, c'est votre discours. Merci à tous les trois, merci aux très nombreux auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui pour faire vivre ce débat qui va se prolonger dans les prochains jours, évidemment, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton, nous retrouvons nos élèves de Condat-sur-Vienne, près de Limoges. Comme plus de 500 classes, la leur participe au concours France Inter de podcast. Il s'intitule « L'école des Odyssées ». Alors les élèves ont choisi le personnage historique dont ils veulent raconter la vie, Louis Braille. Ils ont écrit leur texte. Et maintenant, place à l'enregistrement. Une animatrice pédagogique est venue avec du matériel radio.
Je suis venue avec ma grosse valise dans laquelle il y a 4 micros, la console d'enregistrement et tout le matériel nécessaire pour avoir un enregistrement de qualité, pour mettre en évidence le travail des élèves et le valoriser au maximum.
Oui. Par contre, ça va être lourd.
Donc où est-ce que je m'installe?
Regarde, tu peux t'installer ici, on a tout préparé là, du coup sur cet îlot, ça peut faire le studio d'enregistrement, on peut appeler ça comme ça, ça fait vraiment très très
bon. On appelle ça comme ça. Impeccable, merci beaucoup.
Voilà, Ayoub a déjà mis son casque, il est prêt, parce que j'ai demandé aux enfants, il fallait amener des casques pour nos petits enregistreurs. Alors du coup les enfants, on va monter, alors vous allez voir que la classe est un petit peu disposée autrement, hein, parce qu'il va y avoir le studio d'enregistrement. Attendez, à chacun son tour par contre. Tiens, prends une chaise en attendant, mets-toi ici. Donc, on va faire l'enregistrement du récit, de l'Odyssée sur Louis Braille, juste les voix. C'est Victoria qui va lire le texte. Ok, donc il faut être bien silencieux. J'ai réimprimé le texte, Victoria, et tu vas voir, il y a des petits traits. Hein, pour ces parties-là, tu pourras t'arrêter. Pour reprendre ton souffle, pour te redonner un petit peu de dynamisme. Okay. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer comment il a fallu décider?
Par exemple, pour Louis Braille, on a choisi Adrien.
Et qui est-ce qui va lire? Qui est-ce qui fait la narratrice?
Alors, on a choisi sur le critère de celui qui articulait bien, qui parlait doucement, mais pas trop, qui avait la bonne intonation. C'était Victoria. Ils ont voté et j'étais heureuse parce que je m'étais beaucoup entraînée le week-end d'avant.
Allez, venez. Peut-être que Victoria, tu pourrais te mettre ici. Comme
ça. Je te laisse les répartir. Non, mais comme c'est tu veux. Vous êtes prêtes? Ouais. On respire un grand coup, on est bien près du micro, approche-toi bien du micro. Allez, attention.
Entendez-vous ce bébé qui braille ? Nous sommes au début du 19e siècle. Un enfant vient de naître. C'est Louis Braille. Son nom vous dit quelque chose ? Il va devenir un grand inventeur pour aveugles. Que pensez-vous qu'il a inventé ? Des lunettes de soleil ?
Non.
Une canne blanche ?
Toujours pas.
Des jumelles ?
Non plus.
Je suis Nadège Criton, je suis enseignante détachée et je travaille donc pour l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, où je suis animatrice pédagogique. Voilà ce qui me permet d'intervenir dans les classes. Souvent, c'est une découverte pour eux, la radio, ils connaissent les médias, mais essentiellement le visuel, les écrans, et je trouve qu'effectivement, l'école a ce rôle d'initier ou de faire découvrir ou redécouvrir la radio. Et après, les enfants s'emparent tout à fait du projet et se régalent. Dès le collège, il y a une épreuve d'oral. Au lycée, il y a le grand oral. Et si déjà, à l'élémentaire, on peut mettre les enfants en situation de parler, de s'exprimer, d'être à l'aise, de ne pas avoir peur, bah, c'est une réussite. Puis c'est surtout une ouverture culturelle, je crois.
Moi, je trouve que c'était bien, mais juste, Victoria, elle a fait une mini-faute à la fin, elle a un peu... J'ai mal articulé et du coup, ça... J'ai pas bien réussi à dire la dernière phrase.
Fais-toi plaisir. Tu sais, à la radio, ce qu'il faut surtout, c'est que l'auditeur, il reste sur ta station, hein, qu'il change pas. Hein. Donc pour ça, il faut que tu l'attires, qu'il y ait, tu vois, du pétillant. Alors tu l'as déjà dans ta voix, mais peut-être en étant un peu moins rapide.
Et moi, je rajouterais, les filles, là, un peu plus d'énergie. Par exemple, des lunettes de soleil ? Non ! Vous êtes bête ou quoi ? Je n'ai pas inventé des lunettes de soleil, n'importe quoi, là, quelque chose comme ça.
La radio, ça peut se théâtraliser, ça veut dire qu'on en rajoute un petit peu, en fait. Il faut qu'on accroche notre auditeur.
Tout est là. Feuilleton signé Sonia Princé. Demain, on écoutera ce que ça donne.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi à 13h50, nous parlons gastronomie avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, aujourd'hui, 1er mai, vous avez sélectionné quelques recettes pas prises de tête.
Simple et de saison, c'est parti pour un pot-pourri d'idées de cuisiniers qui ont participé depuis près de 2 ans à cette chronique. Un pot-pourri qui débute sur des notes florales. D'ailleurs, en ce 1er mai, oubliez le muguet, il est extrêmement toxique. Vous serez surpris, mais une centaine de personnes, surtout des jeunes enfants, finissent tous les ans dans un centre anti-poison après en avoir ingéré. Point de muguet donc, mais des boutons de sureau. Le sureau fleurit partout dans la campagne entre mai et juin. L'année dernière, Laetitia Brett, chef du bistrot Esquisse dans le 18e arrondissement de Paris, nous proposait d'en cueillir pour réaliser un sirop. Faites-en bouillir 50 g avec 1 litre d'eau. 600 g de sucre, faites infuser 10 minutes. Filtrez et mettez en bouteille. Comment le déguster ? Tout simplement avec une salade de fraises. Mais un petit conseil, avant de cueillir ces fleurs blanches déployées en ombrelle, assurez-vous qu'elles ne sont pas traitées. D'ailleurs, pour tout ce que vous ramassez dans la nature, plantes ou champignons, munissez-vous d'un guide.
Oui, prenez vos précautions. Autre produit, Marie-Luce, facile à cuisiner, les asperges.
C'est la pleine saison des blanches, des landes ou de Gironde. Le mieux est de les choisir bien dodues. Pour vous assurer qu'elles sont fraîchement coupées, observez leurs pieds. Si vous apercevez des crevasses profondes qui brunissent, fuyez. Deux chefs nous ont donné leur idée. Jean Cousseau, chef 2 étoiles du relais de la Poste à Magesque, dans les Landes, conseille de bien les éplucher pour éviter tout risque d'amertume, de les cuire dans l'eau bouillante salée, entre 7 et 10 minutes selon leur taille, et de les accompagner d'une sauce hollandaise parsemée de poudre de cacahuète. Nicolas Masse, de Macaron à la Grand Vigne près de Bordeaux, propose de les inciser une fois bouillis et de les farcir de feuilles d'ail des ours avant de les rôtir dans un beurre mousseux. Ça marche aussi avec de l'oseille et, recette perso, c'est pas mal aussi de les faire revenir avec un beurre doucement chauffé, infusé de feuilles de sauge. C'est comme vous le voyez, très facile et rapide à réaliser.
On part sur des rillettes ?
Oui, de sardines, celles imaginées par un cuisinier marseillais, Édouard Grand. Faites poêler ou griller au barbecue 1 kg de sardines et miettez-les après avoir ôté l'arête centrale et mélangez-les à une cuillère à café de cumin, une botte de persil haché, une autre de coriandre, un oignon rouge émincé, un zeste de citron et son jus. Salez, poivrez, étalez généreusement sur une tartine de pain grillé, mouillez d'un filet d'huile d'olive et déposez une quenelle de brousse si vous en Provence ou de fromage frais partout ailleurs. En version feignant, ça marche très bien aussi avec une boîte en adaptant les proportions.
Après le sureau, les asperges, les sardines, le dessert.
avec une burrata aux accents orientaux, imaginée par Pierre Coulon à la tête de la laiterie de Paris et auteur d'un livre de recettes sur ce fromage frais venu des Pouilles. Faites fondre à feu doux une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de fleur d'oranger et le jus d'une orange. Laissez refroidir. Épluchez et coupez en tranches fines deux oranges que vous disposez dans un plat. Parsemez sur les fruits une burrata de 150 grammes, elle coûte à peu près 5 euros, que vous aurez préalablement écrasée. Ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de grenade et 2 autres de pistaches concassées. Versez le sirop et saupoudrez d'une cuillère à café de cannelle. J'ai cherché pour conclure une phrase qui irait comme un gant à cette journée en suspens et j'ai trouvé celle-ci du dramaturge allemand Gotthold Ephraim Lessing. Paraissons en toute chose, hormis en aimant et en buvant, hormis en paraissant. Et j'ajouterai aussi, Jérôme, en mangeant.
Éloge de la paresse avec vous. Merci Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. On vous met évidemment toutes les recettes en détail sur franceinter.fr. C'est la page du 13-14. De C'est la France à C'est une chanson. C'est le batteur de jazz André Ceccarelli que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Il sera en concert ce week-end au festival Jazz à Chaumont en quartet pour jouer les titres de son dernier disque, le Jazz et la Java, un album hommage à Claude Nougaro. Qu'André Ceccarelli a bien connu, Nougaro l'appelait Dédé, et avec lui, c'est donc d'une chanson de Nougaro que nous en avons parlé, justement de cette chanson-là, le Jazz et la Java.
C'est un hommage au jazz qui était plutôt américain et à la Java qui est notre héritage, donc, mais ça a beaucoup évolué, parce qu'à l'époque, c'était uniquement les Américains qui jouaient du jazz. Après, dans les années 70, on a commencé à voir des musiciens français aller jouer avec des Américains. Et des accordéonistes comme Richard Galliano ou comme Vincent Pirani qui ont fait évoluer vers le jazz, la Java. Donc il était clairvoyant, Claude Nougaro, quand il a écrit cette chanson. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment séparé, quoi, le jazz et la Java.
Deux musiques très différentes.
Qui ne se rencontraient pas, jamais.
Vous avez quel âge quand vous découvrez cette chanson-là ? Vous habitez à quel endroit ?
J'habite à Nice et j'ai 16 ans.
Et vous, à ce moment-là, vous n'étiez pas du tout dans le jazz ?
Moi, je jouais avec les Chats Sauvages. C'est une autre époque, ça. Mais le jazz, ça a toujours été mon étoile. Le rêve de ma vie, c'était de jouer du jazz dans les clubs à Paris. Et j'y suis arrivé, en fait.
Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la Java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la Java s'en va.
C'est en 1962 qu'est sorti ce classique de la chanson, Frédéric.
1962, l'année où André Ceccarelli est engagé comme batteur du groupe Les Chats Sauvages du Niçois Dick Rivers. C'est quelque temps plus tard qu'il va rencontrer Claude Nougaro.
Je le rencontre à Nice d'ailleurs, dans un cabaret où mon père jouait, parce que mon père était musicien. On est tous musiciens dans la famille, enfin on joue tous de la batterie, tous les garçons jouent de la batterie. Et lorsque je décide de venir à Paris en 1970, j'ai la chance que Maurice Vander m'appelle pour enregistrer un premier album avec Claude Nougaro.
Maurice Vander, pianiste.
Maurice Vander, pianiste, oui, oui. Et puis j'ai eu le plaisir et à la fois la peine immense de participer à son dernier album qui s'intitule La Note Bleue. Il y tenait vraiment, donc on a fait une première partie d'enregistrement où sa femme venait filmer les séances parce qu'il était très 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 mal. Et une deuxième partie avec des voix qu'il avait fait déjà sur des maquettes en étant malade. Donc avec une voix toute petite. Et on a fini le disque comme ça.
Quand j'écoute Béat en solo de batterie, v'là la Java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là.
C'était comment d'être sur scène avec Claude Nougaro ?
Ah, très plaisant. Très plaisant quand on sait être à sa place. On nous demande toujours, mais vous, alors, comment vous faites à accompagner les chanteurs? Il faut rester à sa place. Il faut donner le coup qu'il faut. Mais lui, il était quand même très rythmicien. Mais après le concert, il fallait s'échapper, quoi, parce qu'il était presque dangereux. C'est dommage de le dire.
Il y avait beaucoup d'alcool après les concerts?
Oui. Il y avait l'équipe de nuit hein, qui le suivait. Il y avait une équipe de nuit dans l'orchestre. Bon, moi, je ne fais pas partie de cette catégorie. Moi, je ne suis vraiment pas équipe de nuit. À la fin du concert, j'ai plus d'humour, je m'échappe.
Quand le jazz dit gomen, la java dit gorom. Mais quand le jazz est là.
C'était quoi ses principales qualités à Claude Nougaro, de votre point de vue?
Sa musicalité et son sens des mots. On peut prendre toutes les chansons, même celles qui nous paraissent un peu cucu, il y a toujours un fond qui est génial. Il est génial.
Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Le jazz et la java. Claude Nougaro, c'était donc Frédéric, le choix du batteur André Ceccarelli.
André Ceccarelli qui sera en concert ce dimanche au Festival Jazz à Chaumont.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Vous nous emmenez en Corse.
Oui, au large du Cap Corse pour de mystérieux anneaux sous-marins.
On vous suit avec grand plaisir, à tout de suite.